à toutes et tous, plus que quelques jours avant de se lancer dans la frénésie de Noël avec son lot de cadeaux, de gentilles attentions et de bons repas, du moins c'est tout ce que je vous souhaite. Aujourd'hui nous allons partir chez les studios Disney avec notre film et dessin animé du jour, Rasta Rocket et La Belle et la Bête 2, Le Noël Enchanté. Alors pourquoi Rasta Rocket comme film sélectionné dans mon panel de Noël ? Je vous avoue que c'est une envie personnelle de parler de ce film sorti en 1993 et que je regardais chaque année dès mon plus jeune âge. Cette histoire s'inspire de faits réels comme notre Anastasia d'hier. Dans la vraie vie, voici les faits. George Fitch et William Maloney, deux hommes d'affaires américains, assistent en 1987 à une course de chariots en Jamaïque. Connaissant les grandes compétences des Jamaïcains pour leur vitesse, ils se mettent en tête de relever le pari fou d'inscrire le pays aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary l'année suivante. De là commence une folle aventure pour trouver les membres qui composeront l'équipe de bobsleigh. Pour ce faire, ils recrutent un sprinter du nom de Michael White, ainsi que deux membres de l'armée, Devon Harris et Dudley Stokes. Le quatrième membre sera trouvé dans la famille de ce dernier car il s'agit de Chris Stokes, son petit frère. L'entraînement commence et ce n'est que 6 mois avant la compétition que les 4 sportifs feront la connaissance d'un vrai bobsleigh. Leur entraînement se passe généralement dans des caisses à savon. Autre fait qui est relaté dans le film, c'est leur malheureuse défaite après un crash qui les disqualifiera de la course. Mais pas d'inquiétude, les jeunes sportifs ont certes arrêté leur carrière dans cette performance, mais le film leur a donné un tel coup de projecteur qu'ils ont tous su très bien rebondir dans divers secteurs d'activité. Passons au film maintenant, Rasta Rocket est un grand classique Disney aujourd'hui, mais il aurait pu être un grand classique de leur concurrent, TriStar Pictures, puis Columbia Pictures. En effet, l'idée originelle provient de Jeff Sanginski, qui achète les droits du scénario en 1989, 2 ans après les vrais JO d'hiver. Pour donner une autre dimension à son film, il confie l'histoire à Dawn Steele, à l'époque présidente de Columbia. Sauf qu'elle quitte cette boîte et avant de partir, elle convainc Disney de prendre en charge le projet. Après une réécriture du scénario qui était bien plus dramatique que celui que l'on connaît et une grosse réduction de budget, le travail peut commencer. Même si l'histoire relate des faits réels, les scénaristes se sont autorisés de nombreuses libertés, comme le choix des sportifs, tous sprinteurs dans le film, et on le sait, ce n'était pas le cas dans la vraie vie. De plus, le personnage de l'entraîneur incarné par John Candy n'a pas existé. Rappelez-vous, dans le film, il est un ancien sportif de haut niveau, exclu de toute forme de compétition pour tricherie. Dans les faits, l'équipe qui entourait les sportifs n'a jamais commis d'actes illégaux. Également dans le film de John Turtelbeau, les coureurs vendent une voiture et offrent leur baiser pour financer leur billet d'avion vers le Canada. En réalité, l'équipe a fait une grande vente de t-shirts à leur effigie vendue en Jamaïque. Enfin, dans le film, les autres équipes se montrent très dures, voire moqueuses, avec les Jamaïcains fraîchement arrivés. Là aussi, rien n'est vrai. Parlons un peu de la musique maintenant de ce film, la fameuse version de I Can See Clearly Now de Jimmy Cliff. Elle prend naissance dans la tête de Johnny Nash, chanteur et guitariste américain né en 1940. Si on le connaît aujourd'hui pour ce tube planétaire, on lui doit aussi de nombreuses reprises de la part de nos artistes nationaux, comme Joe Dassin et Claude François, qui reprendra lui seul 3 titres à lui dans les années 70. En 1992, le Jamaïcain Jimmy Cliff sort une reprise sur l'album Breakout, mais c'est bien son intégration dans le générique du film Rasta Rocket qui l'élèvera au plus haut rang des charts. Petit aparté concernant Jimmy Cliff, les studios l'ont tellement apprécié chez Disney qu'ils lui proposeront une nouvelle collaboration, et pas des moindres, Hakuna Matata en version originale 2 ans plus tard. Cette dernière remportera l'Oscar pour la meilleure musique de film en 1994. Place à la musique, on écoute la version de Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now The Rain Is Gone de 92.
It's gonna be a
Maintenant qu'on a fait le plein de soleil et de chaleur avec ce tube des années 90, place à notre dessin animé du jour, la suite du grand classique Disney, La Belle et la Bête. Je ne reviens pas sur l'histoire du tome 1, je pense que n'importe qui sur cette planète la connaît, et je ne vais pas vous spoiler en vous disant qu'à la fin, la bête et les habitants du château retrouvent leur apparence humaine. Dans le tome 2, le château ouvre ses portes pour fêter Noël à tous ses habitants, une fête somptueuse qui n'a pas toujours été au rendez-vous, et c'est bien ce que Madame Samovar veut nous remémorer. Mais si, Madame Samovar, vous savez, la petite d'hier. Quand la bête était encore justement une bête, Noël était synonyme de malheur, car c'est à cette époque que le sort s'est abattu sur elle. Mais Belle, dans sa grande naïveté, souhaite tout de même célébrer ce moment et met tout en œuvre pour y parvenir. C'était sans compter sur Forte, le compositeur du château transformé en orgue par le sortilège, qui veut à tout prix que rien ne change, car il est bien plus utile à ses yeux sous cette forme-là. Le film d'animation, le 52e des studios Disney sorti en 97, fait partie pour moi des suites qui fonctionnent. Car je sais pas vous, mais pour moi il y a des suites qui sont tout simplement des navets, en même temps difficile de faire mieux que le tome 1 pour certaines œuvres. Ici je trouve que l'histoire est jolie, les musiques sont douces, l'intrigue est ficelée. C'est un tome 2 que je recommande, surtout en hiver bien sûr. Côté anecdote, on est très peu servi, je peux simplement vous souligner que les personnages des films La Belle et la Bête sont inspirés du conte éponyme de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, écrit en 1756, lui-même inspiré d'Amour et Psyché d'Apulée, qui date du IIe siècle, d'une version italienne en 1550 et d'une française en 1740. C'est bien la version de Jeanne-Marie qui lui fera découvrir la célébrité qu'on lui connaît. Autre fun fact à ce sujet, il se pourrait que l'histoire de La Belle et la Bête soit inspirée de faits réels. Ce serait l'histoire de Pedro González, dit Petrus Gonzalvus, né au XVIe siècle sur l'île de Tenerife, qui a été porté à la cour du roi de France, Henri II. Il souffrait d'hypertrichose, provoquant une croissance anormale des cheveux sur le visage et d'autres parties du corps. À Paris, il a été accueilli sous la protection du roi et a épousé une belle femme parisienne nommée Catherine. Vous en savez maintenant autant que moi sur La Belle et la Bête. On se quitte avec un extrait de la bande originale du film, avec Tant qu'il y aura Noël, composé par Rachel Portman et dont les paroles nous viennent de Don Black. On se retrouve demain pour notre dernier épisode avec les célèbres Love Actually et L'Âge de Glace.
Tant qu'il y aura Noël, je garderai l'espoir, c'est le plus se voir. Tant qu'il y aura Noël, je sais que demain une étoile dans le ciel guidera mon chemin.
Tant qu'il y aura des Noëls, il y aura des dindons, des esturgeons,
des canetons, de la bûche au marron,
du feu dans la cheminée,
des cadeaux par milliers et des rubans tout en soie.
Je voudrais qu'ils soient tous à moi.
Ils danseront sans répit toutes les danses du tapis.
Le ventre est l'étoile de Marthe, tu m'as offert à mon bar.
Quand l'argenterie est polie,
la vaisselle étincelle,
nous serons tous briqués, vernis comme de vrais soleils.
Après dîner, nous jouerons
du jour.
Puis nous irons au jardin et nous y danserons.
Nous ferons un bonhomme de neige si gros et si grand,
qui durera jusqu'au printemps.
Thank you.
dans un monde.